Europe 1, historiquement vôtre. Le récit. Stéphane Bern.
Son frère a su déchiffrer le mystère des hiéroglyphes, mais il n'y serait sans doute jamais parvenu sans son soutien permanent. Je vous raconte un passionné d'Égypte qu'il était tout autant que celui que l'on connaît, le frère de Jean-François, Jacques-Joseph Champollion. Nous sommes le 14 septembre 1822 à Paris. Jean-François Champollion a 31 ans. Il débarque tel une tornade chez son frère adoré Jacques-Joseph. Dans ses bras, il porte une multitude de feuilles annotées, le fruit d'un travail pharaonique, ses recherches sur la pierre de Rosette et l'écriture égyptienne. Une phrase. Face à son frère, il ne prononce qu'une seule phrase. Avant de s'évanouir au milieu du bureau, « Je tiens l'affaire ». Puis, le noir total. Rassurez-vous, Jean-François Champollion se relèvera. Il était simplement surmené. Mais Jacques-Joseph, son protecteur, qui a toujours cru en lui, a bien compris l'importance de ce moment. Son petit frère vient de percer à jour le mystère des hiéroglyphes et de jeter les bases en Europe d'une nouvelle discipline, l'égyptologie. Paris réussit pour ce duo de frères unis dans le meilleur comme dans le pire, et j'ose le dire, jusqu'à ce que la mort les sépare. Car cette passion pour l'Égypte partagée par les deux Champollion est très vite devenue une course contre la montre à laquelle ils vont consacrer leur vie, toute leur vie. Remontons 44 ans en arrière à Figeac, dans le Lot. Jacques-Joseph Champollion voit le jour le 5 octobre 1778. Très rapidement, ce passionné de livres, d'histoire et de grec comprend que dans sa famille, la culture et les études ne sont pas vraiment la priorité. Alors, il décide de prendre sa vie en main et ses jambes à son cou et de s'installer à presque 600 km de là, à Grenoble. Là-bas, il travaille comme apprenti dans le commerce de ses cousins. Un emploi purement alimentaire, car dès qu'il en a le temps, Jacques-Joseph se plonge dans les ouvrages qu'il emprunte à la bibliothèque ou qu'il achète. Cette boulimie de lecture, cette soif de connaissance, l'aîné des Champollion les partage avec Jean-François, son plus jeune frère de 12 ans, son cadet. Le petit dernier de la famille émet l'idée de le rejoindre alors qu'il n'a que 11 ans. Jacques-Joseph accepte bien volontiers. Il sera son professeur, son protecteur, son mentor. Il met sa bibliothèque à disposition du jeune Champollion. Jean-François ne fait pas que lire quelques manuscrits. Il les dévore, les auteurs classiques, mais surtout ceux qui écrivent sur l'Orient, l'Égypte notamment. Il laisse même des notes à l'attention de son grand frère. « Jacques-Joseph, j'ai trouvé dans tes livres plusieurs ouvrages qui m'ont fait bien plaisir. Il y a des questions dont je désire extrêmement la solution. N'aurais-tu pas quelques livres qui parlent de l'histoire naturelle des livres saints ?» Malgré les apparences, Jean-François s'ennuie à l'école. S'il se désintéresse des mathématiques et des sciences, il est en revanche obnubilé par les langues orientales, une obsession que son frère va vouloir encourager dès qu'il le peut. Jacques-Joseph n'hésite pas à l'emmener avec lui dans des soirées culturelles organisées par le préfet Fourier. Les deux Champollion écoutent religieusement les récits de voyages des savants qui ont pu découvrir des contrées lointaines. Parmi ces destinations exotiques se trouve la fascinante Égypte. Jacques-Joseph a alors une idée qui va révolutionner sa vie ainsi que celle de son petit frère. Puisque Jean-François semble posséder des prédispositions dans l'apprentissage des langues orientales, pourquoi ne deviendrait-il pas le premier à déchiffrer les fameux hiéroglyphes, cette écriture égyptienne visible notamment sur la pierre de Rosette ? Elle a été découverte en 1799 par les Français, mais elle est passée dans l'escarcelle britannique depuis la victoire anglaise sur les troupes de Napoléon. Le défi est lancé. Jacques-Joseph se jure d'accompagner son frère dans chacune des étapes de ce projet. C'est lui qui convainc le préfet Fourier d'appuyer la candidature de Jean-François pour obtenir une bourse et intégrer le Collège de France à Paris. Il n'a pas 17 ans qu'il jongle déjà avec l'hébreu, le chaldéen, en passant par le syriaque et l'arabe. C'est son frère également qui lui conseille de rentrer en contact avec le vicaire de l'église Saint-Roch en plein cœur de Paris. Il est l'un des rares à maîtriser le copte, la langue égyptienne telle que Ramsès et Toutankhamon la parlaient. Mais Jacques-Joseph ne s'arrête pas là. Bien avant le télétravail et les réunions par écran interposés, les Champollion mettent en place une stratégie à distance. Jean-François potasse à Paris et son grand frère relit ses notes à Grenoble. Tout seul, on va plus vite, ensemble, on va plus loin, pourrait-on dire. Les deux frères s'envoient de nombreuses lettres et Champollion l'aîné est un motivateur hors pair. Ne te décourage pas sur le texte égyptien. Une lettre te conduira à un mot à une phrase et une phrase au tout. Travaille toujours jusqu'à ce que je puisse vérifier ton travail par moi-même. Pourtant, les années passent et les recherches des Champollions stagnent. Une course contre la montre s'engage alors, car en Europe, d'autres égyptologues veulent aussi lever le voile sur ce mystère égyptien. Parmi eux, l'anglais Thomas Young, qui a pour le moment une longueur d'avance sur le duo français. D'autant que les deux frères voient leurs recherches fortement compromises. Pour avoir soutenu Napoléon avant son abdication et l'arrivée au pouvoir de Louis XVIII, ils sont assignés à résidence dans leur ville natale de Figeac. Le temps presse. Il ne faudrait pas qu'un savant anglais, russe ou suédois ne découvre le mystère de la pierre de Rosette avant eux. Après un an et demi à patienter tant bien que mal, les deux frères sont enfin autorisés à reprendre le cours d'une vie normale. Si Jacques-Joseph trouve un poste de professeur à Paris, Jean-François, lui, a tout perdu. Plus d'emploi, plus d'argent et sa santé est vacillante. Il n'en faut pas davantage à son grand frère pour l'accueillir chez lui. Jean-François est galvanisé. Il épluche nuit et jour la copie qu'il a pu se procurer de la fameuse pierre de Rosette. Et à force de travail, le 14 septembre 1822, il parvient à déchiffrer les premiers noms des pharaons Ptolémée, Cléopâtre, Néron, Bérénice. Une semaine plus tard, à l'Académie des Belles-Lettres, devant le gratin scientifique dont son célèbre adversaire Thomas Young, Jean-François présente ses travaux. Avec l'aide de son frère, il en a rédigé en quelques jours une synthèse intitulée « Lettre à Monsieur Dacier », du nom du directeur de l'Académie. La salle est subjuguée par la démonstration du jeune Champollion. Personne n'imagine alors qu'il partage cette victoire avant tout avec son frère. Pourtant, les Champollions ne sont pas totalement satisfaits. En effet, Jean-François nourrit encore un fantasme, se rendre enfin en Égypte et étudier sur place le plus grand nombre de temples, de statues, de cartouches royaux. Mais il ne dispose ni de fonds propres, ni du soutien de l'État. C'est la désillusion. Et une fois encore, qui va se démener pour réaliser le rêve de Jean-François ? Son frère, bien entendu. Jacques-Joseph Champollion réussit à convaincre le duc de Blacas, un proche du roi Louis XVIII, de leur venir en aide. En effet, une expédition le long du Nil est organisée par Léopold II, le duc de Toscane. Qu'à cela ne tienne, le duc de Blacas persuade à son tour le nouveau roi Charles X de financer une partie de ce voyage et Jean-François en devient la tête pensante. Pendant 17 mois, le jeune Champollion parcourt enfin ce pays qui le fascine depuis son enfance. Mon très cher frère, à Karnak apparaît toute la magnificence pharaonique. Tout ce que j'avais vu, tout ce que j'avais admiré avec enthousiasme me parut misérable en comparaison de ces conceptions gigantesques. Le jeune Champollion semble alors avoir une carrière prometteuse qui s'offre à lui. Mais Jean-François meurt prématurément, à l'âge de 41 ans. Son frère, Jacques-Joseph, consacrera tout le reste de sa vie à achever, publier et défendre le travail colossal de ce frère tant aimé.
Europe 1, historiquement vôtre.